Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine des Nations Unies dont voici les titres. Un enregistrement biométrique des réfugiés rwandais en RDC. Selon le HR, l'opération démarrée en mars dernier au Katanga va se poursuivre dans les deux Kivu et dans d'autres provinces où est signalée la présence de ces réfugiés. Question d'identifier qui est qui pour envisager des solutions durables. 28 millions de personnes environ souffrent de l'insécurité alimentaire, dont plus de 7 millions très sévèrement. Une analyse menée par le PAM et ses partenaires l'affirme. Un expert de cette agence onusienne nous dira davantage sur cette étude dans le décryptage. La MONUSCO en images, une exposition photo doublée d'un vernissage, se déroule depuis le 22 mai à l'Institut français à Kinshasa, où le public est appelé à vivre sur les clichés les actions de la mission onusienne pendant ses 15 ans de présence. Les détails avec notre invité, c'est tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous encore une fois. Le HR et le gouvernement congolais à travers sa commission nationale pour les réfugiés procèdent à l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais en RDC. Selon le chef de la sous-délégation du HR Nord Kivu, l'opération permettra notamment d'identifier et d'enregistrer tous les réfugiés rwandais arrivés entre 1994 et 1998. Monsieur Fafa Olivier explique le contexte de cette opération et ses objectifs dans cet extrait sélectionné par Honoré Missenga Kalala.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a recommandé depuis un certain temps au pays d'asile abritant les réfugiés rwandais de 1994 d'invoquer la clause de cessation à la date du 30 juin 2013. Lors de la réunion ministérielle en avril 2013 à Pretoria en Afrique du Sud, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de ne pas appliquer la clause de cessation et a posé des préalables, à savoir notamment la tenue d'une réunion tripartite entre le ICR, le Rwanda et la RDC, et aussi la sensibilisation et l'enregistrement obligatoire des réfugiés rwandais vivant encore sur le sol congolais pour collecter leur intention de retour et définir aussi les solutions durables. Entre le mois de septembre 2013 et janvier 2014, la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, avec qui nous travaillons, a organisé l'enregistrement de premier niveau qui a permis de collecter un certain nombre d'informations sur les réfugiés vivant encore dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, en province et au Katanga. À l'heure actuelle, la CNR et le ICR voudraient passer à la seconde phase de l'enregistrement des réfugiés rwandais avec des informations plus détaillées que nous appelons communément enregistrement biométrique. Les objectifs de cet enregistrement permettra au gouvernement de pouvoir identifier les solutions durables. Ça nous permettra notamment d'enregistrer tous les réfugiés rwandais qui sont arrivés entre 1994 et 1998. L'enregistrement permettra aussi d'actualiser les statistiques par tranche d'âge, par sexe, éducation, catégorie socio-professionnelle, localité d'origine et aussi lieu de résidence. À l'issue de l'exercice, il sera délivré aux réfugiés et à chaque famille une attestation de réfugié que nous appelons l'attestation prima facie, mais cette attestation sera délivrée par la CNR. L'opération va couvrir les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, de l'Équateur, du Katanga et aussi d'autres provinces de la RDC où il a été signalé la présence de réfugiés. Pour votre gouvernement, le lancement officiel de l'exercice a été fait par le vice-premier ministre au Katanga en date du 12 mars. Actuellement, pour ce qui concerne le Nord Kivu, on a repoussé un peu les échéances, mais nous allons finalement mener l'enregistrement biométrique dans la zone de Goma, Sake et Minova entre le 25 et le 28 mai, donc la semaine prochaine. Et ensuite, à partir du 8 juin, nous allons démarrer l'opération à l'intérieur des territoires du Nord Kivu et du site Kivu.
Quel sera alors le sort à réserver aux réfugiés rwandais identifiés et enregistrés, Monsieur Fafa Olivier?
Pour toute planification, quand on parle d'êtres humains, notamment dans nos opérations de réfugiés, la première chose c'est de les connaître, de les identifier. C'est pour cela que nous menons cet exercice-là. Et quand on les identifie, nous avons toujours le regard tourné vers les solutions durables. Et les solutions durables pour nous, c'est le rapatriement, c'est l'intégration locale, et puis c'est la réinstallation. Donc, toutes les options sont ouvertes pour cette population-là après l'enregistrement.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme alimentaire mondial, PAM en sigle, a effectué une étude sur l'insécurité alimentaire en RDC. L'étude s'intitule « Analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité ». Ces résultats, publiés en janvier 2014, restent toujours d'actualité. C'est pourquoi nous avons eu recours à un expert du PAM en la matière, M. Pembe Lero, pour nous parler du pourquoi et des résultats de cette analyse. Suivez-le dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Pembelero, bonjour.
Bonjour.
Le PAM a procédé à une analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. Quelle a été d'abord la motivation de cette analyse?
Vous savez que nous travaillons dans un contexte de ressources limitées et dans ce sens, il est toujours plus efficient d'avoir des informations actualisées et fiables sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir cibler les zones d'insécurité alimentaire et les populations qui sont les plus affectées par ce problème. C'est pas seulement dans le domaine de sécurité alimentaire, mais le besoin d'avoir des données fiables sur lesquelles on peut s'appuyer pour une bonne gouvernance sont un besoin qui est ressenti dans tous les autres domaines.
C'est pourquoi cette analyse est qualifiée d'approfondie.
Elle est approfondie parce que elle a couvert tout le pays et elle explore un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de répondre à des questions clés qu'on se pose toujours. Les questions de savoir quelle est la prévalence de l'insécurité alimentaire en RDC, qui sont affectés par ce problème, ils sont combien, ils sont où, quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire et quelles sont les options des réponses pour les assister.
Alors, par rapport à ces indicateurs, comment avez-vous analysé la sécurité alimentaire en RDC?
La sécurité alimentaire est un concept multidimensionnel. Il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on se fonde pour pouvoir mesurer la sécurité alimentaire. Généralement, il faut dire qu'il y a trois dimensions de la sécurité alimentaire. Il y a la dimension de disponibilité, la dimension de l'accessibilité et la dimension de l'utilisation. La disponibilité veut dire quelles sont les quantités physiques de nourriture qui sont dans un pays en termes de production locale, en termes d'importation, mais aussi en termes d'aide alimentaire. Alors, l'accessibilité veut dire quelles sont les capacités de ménage d'accéder à cette nourriture qui peut être disponible. Et l'utilisation, c'est comment l'organisme arrive à utiliser cette nourriture qui rentre dans l'individu. Et là, on explore des aspects comme les habitudes alimentaires, l'accessibilité aux services sociaux de base, qui sont aussi des facteurs qui peuvent, si vous voulez, affecter cette capacité de l'organisme.
Oui, alors par rapport à tout ça, quel est l'état des lieux?
Les premiers résultats, ce qu'on a trouvé, qu'en RDC, il y a environ 54% des ménages ruraux qui représentent environ 28 millions de personnes qui sont affectées par l'insécurité alimentaire, avec 7,5% d'entre eux qui sont sévèrement affectés par l'insécurité alimentaire. Sur le plan de répartition géographique de l'insécurité alimentaire, il y a un certain nombre de provinces où les proportions des ménages qui sont en insécurité alimentaire est au-dessus de la moyenne nationale. Donc ces provinces sont le Sud Kivu, le Kasaï oriental, la province de l'Équateur, la province orientale et le Katanga.
Alors d'après cette analyse, quels sont les facteurs qui favorisent l'insécurité alimentaire dans ces régions-là?
Toutes les études montrent que l'insécurité alimentaire en RDC a des causes qui sont multiples et variées. Il y a des causes d'ordre structurel et des causes d'ordre conjoncturel. Les causes d'ordre structurel, c'est fondamentalement la pauvreté. C'est la pauvreté qui limite les ménages ruraux d'avoir accès à des outils de production. C'est la pauvreté aussi qui limite les capacités de ménage d'accéder à une nourriture adéquate qui peut être disponible sur les marchés. Et donc, la pauvreté elle-même, comme vous le savez, est un résultat de beaucoup de facteurs. Il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes, par exemple, des infrastructures qui sont quasi délabrées, surtout en ce qui concerne les routes de desserte agricole. Et ça empêche les ménages qui produisent dans le milieu rural de pouvoir écouler leurs produits sur des marchés. Mais ça peut être aussi un problème d'éducation. Le niveau d'instruction des personnes qui les limitent à avoir accès à l'information peuvent être une cause de pauvreté. Pour revenir aux causes conjoncturelles, il y a aussi les conflits armés qui sévissent surtout dans la partie est du pays et dans le centre du Katanga, qui en fait viennent exacerber une situation qui est déjà fragilisée par des causes structurelles.
L'analyse a couvert quelle période et quelle région géographique?
La collecte des données a commencé en octobre 2011 et s'est étendue jusqu'en décembre 2012 et elle a couvert tout le pays, toutes les provinces, à l'exception de la province de Kinshasa. Mais il faut préciser aussi qu'elle a couvert seulement la zone rurale et non urbaine.
On a plus parlé de la sécurité alimentaire. Je ne vois pas jusque-là la part de la vulnérabilité parce que ce sont des concepts qui sont utilisés dans cette analyse.
En fait, la vulnérabilité l'a définie comme la capacité d'un ménage de pouvoir rebondir, si vous voulez, ou de pouvoir faire face à un choc auquel il est exposé. Et donc, les chocs ici, c'est quoi? On a des chocs comme les conflits armés. Alors, beaucoup de populations sont exposées à ces conflits armés. Lorsqu'il arrive que un village est attaqué et que ces personnes sont obligées de pouvoir fuir pour aller dans un endroit sécurisé, ces populations, est-ce qu'ils ont les capacités de pouvoir faire face à ce choc en termes d'avoir accès à la nourriture? Donc c'est ça, on peut évaluer le degré de vulnérabilité. Par exemple, les enquêtes ont démontré que sur le plan de la situation des ménages, les ménages déplacés sont plus vulnérables que les ménages résidents parce que ils ont moins de capacité de faire face au choc que les ménages qui les accueillent.
Tout comme on peut dire que les femmes sont plus vulnérables que les hommes, les enfants plus vulnérables que les adultes.
Bon, les résultats du CFSVA ont démontré que dans certaines provinces, les ménages qui sont dirigés par les femmes sont plus vulnérables à l'insécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes. Par exemple, dans le Nord Kivu. Mais les résultats montrent aussi que dans l'Équateur, par exemple, c'est plutôt les ménages dirigés par les hommes qui sont plus vulnérables que les ménages dirigés par les femmes.
Monsieur Pembe, l'un des objectifs de cette analyse était de guider le gouvernement, les organismes onusiens, dont le PAM, votre agence et autres organisations humanitaires, à élaborer des stratégies plus appropriées pour répondre aux besoins des personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Quelles sont les stratégies prises du côté du PAM par rapport à cet objectif?
Vous savez que le PAM a mis en place un programme qu'on appelle Programme d'intervention prolongée de secours et de redressement, IPCR. Ce programme vise à apporter une assistance alimentaire aux populations, surtout les populations qui sont affectées par les conflits armés, particulièrement dans l'est du pays et dans la partie centrale du Katanga. Il y a aussi une opération d'urgence qui a été mise en place dans la province de l'Équateur pour assister les réfugiés centrafricains. Il faut dire aussi que le PAM est en train de mettre en place, là où les conditions des marchés sont favorables, des modalités de distribution d'argent ou des coupons aux bénéficiaires de l'assistance alimentaire. Ça, c'est une modalité qui est importante parce que ça renforce, si vous voulez, l'économie locale. Et dans le domaine du développement, le PAM est en train de mettre en place aussi, avec la FAO, un programme qu'on appelle Achat pour le progrès. Et ce programme vise à renforcer les capacités des organisations paysannes dans certains endroits. On a commencé avec la province du Katanga, le territoire de Kabalo, et la province de l'Équateur, dans le territoire de Bikoro et de Ingende. Mais le programme va être élargi dans quelques mois dans la partie est du pays. Et ce programme, comme je le disais, vise à renforcer les capacités des organisations paysannes, à améliorer les marchés, à faire en sorte que les paysans vont être connectés au marché pour pouvoir écouler leurs produits. Et donc la FAO et Oxfam, par exemple, sont en train de renforcer les capacités de ces organisations en leur fournissant des intrants agricoles, mais aussi un appui technique. Et lorsque les surplus de ces organisations n'est pas écoulé, le PAM peut se présenter comme un acheteur de ces surplus.
Monsieur Pemelero, merci.
Je vous en prie.
Rendons-nous d'abord en Ituri à Bunia pour cette page de nouvelles. 60 éléments de la police nationale congolaise de Guéti formés en gestes et techniques professionnelles d'intervention en maintien et rétablissement de l'ordre public ainsi qu'en éthique et déontologie policière. Ils ont été formés par la police des Nations Unies dans le cadre des projets Impact Rapide de la MONUSCO. C'est le 15 mai dernier qu'a eu lieu la clôture de cette formation débutée le 15 décembre 2014. Toujours dans le volet formation, cette fois-ci à Goma, au Nord Kivu, plus de 60 personnes, en majorité des femmes, ont participé pendant 2 jours à un atelier sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Un atelier organisé par la section genre de la MONUSCO avec pour objectif de sensibiliser les partis politiques pour une meilleure prise en compte des femmes dans les instances décisionnelles. Cela particulièrement en prévision des prochaines échéances électorales. Enfin, volet développement, le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, initie un nouveau projet. Un projet d'appui au renforcement des capacités dans le domaine de la réduction des risques naturels en RDC. Le ministre de l'Intérieur et le directeur pays du PNUD RDC ont lancé ce projet jeudi 21 mai dernier à Kinshasa.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La MONUSCO organise depuis vendredi dernier une exposition photo à l'Institut français ici à Kinshasa. Cette exposition montre les différentes actions de la MONUSCO en RDC pendant les 15 ans de sa présence. Dans cette émission, notre invité, c'est Alexandre Essomé, responsable de la communication sociale à la MONUSCO. Alexandre Essomé nous fait justement l'éclairage sur cette exposition dans cet entretien avec Honoré Missinga Kalala.
Alexandre Sommet, bonjour.
Bonjour.
La MONUSCO organise du 22 mai au 6 juin 2015 à Kinshasa une exposition photo destinée au public congolais. Quel est l'objectif de cet événement?
Mais du point de vue de la MONUSCO, l'objectif est très simple. Il s'agit de communiquer auprès de la population congolaise l'importance du travail de ce que la MONUSCO a réalisé depuis 15 années de sa présence ici en République démocratique du Congo, communiquer ces informations auprès du grand public. Et nous avons cette fois-ci utilisé, ou nous voulons utiliser le véhicule qui est là par la photo, parce que comme on le dit très souvent, la photo exprime 1000 mots, et donc si nous avons une photo, nous pensons que nous avons 1000 mots, ainsi, si nous avons 50 photos, nous avons 50 000 mots, et nous pouvons donc très clairement dire au peuple congolais ce que nous avons fait, ce que nous avons pu faire, ce que nous avons essayé de faire pendant les 15 années que nous avons passées ici.
Et pourquoi avoir choisi ce moment?
Ben, on le dit très souvent, et je le répète souvent dans différents plages où je suis invité, il n'est jamais pour réaliser quelque chose, et nous avons pensé que cette fois-ci est la bonne. Mais par le passé, je sais aussi que la MONUSCO a réalisé des expositions à Goma, à Lubumbashi, à Bukavu, mais c'était la première fois que la MONUSCO entreprenait une exposition de caractère national, et j'allais même dire de caractère international, puisque après cette exposition, nous la transporterons à New York et puis à Addis Abeba, au sommet de l'OEA.
Et pour ceux qui veulent se rendre à l'exposition, le programme se présente comment? Quand ils arrivent, ça se passe comment concrètement?
Ben, le programme est très simple. Vous connaissez l'Institut français qui est au sein de la halle de la Gombe. Et dans cet institut, à l'arrière, ils ont une salle d'exposition, une magnifique, j'allais dire, salle d'exposition. Et tous les jours, de mardi à samedi, du matin à 8h, je crois, jusqu'à 18h30, la salle est ouverte. Les jeunes gens, les personnes intéressées peuvent aller là-bas, visiter, voir ce qui se passe, voir l'exposition.
L'Institut français, c'est un cadre sélectif. Pourquoi ne pas avoir choisi un cadre beaucoup plus ouvert, par exemple la place de l'Indépendance ici, ex-gare centrale, où vous auriez plus de chances d'avoir un peu plus de monde qu'à l'Institut français?
Je m'inscris en porte-à-faux par rapport à l'argumentation que c'est un cadre sélectif. Je pense plutôt que c'est un cadre culturel. C'est un haut-lieu culturel pour les jeunes gens. Et donc, parce que nous allons exposer les photos, nous avons pensé qu'il faut peut-être les mettre dans un cadre qui est essentiellement culturel, où tous les jeunes se regroupent très souvent. Si vous allez au Centre culturel français, vous voyez les jeunes de tous bords qui viennent de toutes les couches sociales. C'est vraiment pas... c'est un groupe de personnes qui fréquentent le Centre culturel français, c'est tout le monde, c'est la maison de tout le monde. Et nous avons pensé que c'est un bon lieu, et qui plus est, avait déjà, n'est-ce pas, un bon cadre d'exposition. Vous savez, exposer des photos, ça demande tout un arsenal technique, logistique, d'éclairage, etc. Et donc le Centre culturel français avait déjà tout cela, et pour nous c'était bien facile de commencer par là. Mais cela n'est pas exclu que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, qu'on aille vers les places publiques du type marché, à la place de la gare et autres.
Alors revenons à l'exposition elle-même. Quelles sont les images fortes de cette exposition?
Pour cette première exposition, et je vous ai dit qu'elle sera itinérante, elle sera un peu partout à travers la République démocratique du Congo, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Mbandaka et autres. Après, nous allons l'amener sur le plan international. Mais l'essentiel, la quintessence pour l'instant de cette exposition, c'est une 50aine de photos qui capturent, n'est-ce pas, ce que les casques bleus, je veux dire ici les militaires et les civils, font sur le terrain. Parce que là, souvent, il y a une confusion à ce niveau. Les casques sont civils, mais les casques bleus sont aussi militaires. Et donc, les deux groupes de personnes, quel type de travail ils font sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Comment ils interagissent avec la population congolaise? Quels services ils apportent aux populations congolaises sur le terrain? Parce que c'est des choses qu'il faut dire. Vous savez, très souvent, un des défauts des grosses organisations comme les Nations Unies, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on le dit peu. Et il faut souvent saisir des opportunités comme celle-ci pour dire ce que nous faisons au grand public pour que celui-ci comprenne la quintessence de notre travail sur le terrain.
Combien de photos au total?
Pour cette première sortie, nous avons une 50aine de photos. Nous avons des milliers de photos. Hein. À mesure que nous allons déplacer cette exposition, nous allons ajouter d'autres photos.
Sur l'une de vos affiches, vous appelez le public à venir nombreux, je cite, « pour poser un regard critique sur le travail de la MONUSCO en RDC. Un regard critique, c'est-à-dire que le public ne va pas se contenter que de regarder les clichés. Cela va s'accompagner d'une série de conférences débats.
Oui, nous avons invité des jeunes des universités, des écoles et autres qui viendront là-bas. Et à la suite de la visite de l'exposition, on aura des discussions avec des jeunes gens pour jauger s'ils ont compris, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Pourquoi nous visons des jeunes? Parce que nous pensons que la jeunesse représente le devenir, l'avenir, j'allais dire, de la République démocratique du Congo. Et nous voulons que la discussion soit aussi axée sur ce que la MONUSCO a fait ou la MONUSCO n'a pas fait en République démocratique du Congo. Et critique, oui, il faut être critique parce que nous pensons que on n'a pas, n'est-ce pas, l'apanage de bien tout faire. Et que, comme toute organisation humaine, nous sommes également ouverts, n'est-ce pas, aux critiques de la population pour laquelle nous voulons servir.
Dernière question, Monsieur Alexandre. Au-delà de l'objectif, y a-t-il un message particulier que la MONUSCO veut véhiculer à travers cette exposition?
Que la MONUSCO est avec la population congolaise, à tout temps, en tout lieu, à tout moment. Et ça, c'est un message fort que le représentant du secrétaire général, Monsieur Martin Kobler, communique tous les jours quand il est en contact avec le grand public. Nous sommes avec la population congolaise, nous voulons être avec la population congolaise et nous disons, permettez-nous de vous donner un coup de main, le moment viendra, on partira et ensemble, là où nous serons, nous dirons, nous avons donné un coup de main à la République démocratique du Congo.
Alexandre Essomé, merci.
C'est moi qui vous remercie.
La traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants dans la province du Katanga, la problématique a fait l'objet d'un atelier organisé lundi dernier à Lubumbashi par l'Organisation internationale des migrations, OIM en sigle. L'objectif de cet atelier était justement d'outiller les partenaires œuvrant dans ce domaine pour lutter efficacement contre ce phénomène. Un phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique, mais concernant le Katanga, le chef des opérations de l'OIM sur place a indiqué que la province ne dispose pas à ce jour de statistiques fiables. Les propos d'Emery Ejide Kianga au micro de Karine Topé-Ridassi.
Au niveau du Katanga, nous avons eu en 2008, au bénéfice d'un programme, organisé un atelier où nous avons reçu au moins 15 participants qui sont venus principalement des ONG qui encadrent les gens. Et nous leur avons donné des outils pour faire le travail d'enquête et aussi d'assistance. Mais jusqu'à ce jour, aucun cas nous a été porté si ce n'était pas le cas des enfants qui sont revenus de la Zambie. Pour le reste, ce ne sont que des allégations parce que ni les affaires sociales, ni les ONG ne nous ont pas encore saisi avec des cas probants pour lesquels nous pouvons dire voilà, nous avons 2 cas, 20 cas, c'est maigre comme activité, mais nous espérons que maintenant qu'il y a des cas avérés, que le monde, les opérateurs partenaires des affaires sociales savent maintenant que le problème est réel. Parce qu'avant, on croyait que c'était des chimères, on parlait, c'était des trucs, des blablabla. Mais il y a des réalités.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Le confrère Alain Waikani de la télévision centrale de Chine, CCTV, a posé la question suivante à partir de Goma.
Le représentant spécial a déploré les conditions de déplacés éternes, donc les pygmées, au niveau des Nyunzu. Mais depuis que le cas de ces déplacés a été brûlé, ils sont regroupés dans des écoles. Est-ce que les humanitaires sur place au niveau des Nyunzu passent peut-être à reconstruire les cas ou bien les placent seulement de réorganiser comment renvoyer ces déplacés dans leur maison ou bien dans leur village? C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup.
Et suivez la réponse à partir de Kinshasa de Sylvestre Toumba Moudinga du bureau OCHA RDC Kinshasa.
Effectivement, on vous en a parlé, je crois, il y a 2 semaines concernant le site de Kotanga, près de Nyunzu, où il y a des partenaires qui sont arrivés justement pour répondre aux besoins en rapport avec notamment les abris et les articles ménagers essentiels par rapport aux dommages que ces personnes déplacées avaient subis. Il y a également d'autres partenaires qui sont arrivés pour des réponses dans le secteur de la santé, notamment en installant une clinique mobile dans la zone.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Yves Villemot. Je suis chef de la communication à l'UNICEF en République démocratique du Congo. J'ai 49 ans. Je suis marié et père de 3 enfants de 17 ans et puis des jumeaux de 12 ans. Je suis en République démocratique du Congo depuis octobre dernier et très heureux de l'être. Même si je suis seul ici, la famille est restée en Belgique, je suis de nationalité belge. Au sein de l'organisation UNICEF ici en RDC, j'essaie donc de promouvoir les droits de l'enfant à travers le pays tout entier, de mieux faire connaître la situation des enfants à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, et de promouvoir l'action que met en place l'UNICEF en appui au gouvernement pour améliorer la situation des enfants en République démocratique du Congo. En ce qui concerne mon passé, mon passé est assez simple à décrire puisque je travaille depuis 89 pour l'UNICEF. J'ai une énorme motivation pour la cause des enfants. J'ai commencé en 89 pour l'UNICEF à un moment qui était particulièrement symbolique pour l'UNICEF puisque c'est en novembre 89 que le monde a adopté la convention relative aux droits de l'enfant qui est le texte par excellence sur lequel l'UNICEF base son action à travers le monde entier, y compris en République démocratique du Congo. J'ai tendance à travailler beaucoup parce que les besoins des enfants sont importants ici dans le pays, mais j'ai quand même de temps en temps un peu de temps libre et j'essaye de me forcer à me donner un peu de temps libre. Pendant ce temps libre, je pratique du sport, je fais du jogging, j'aime bien faire du cyclisme, c'est un peu plus difficile en République démocratique du Congo et à Kinshasa, mais j'ai la vaste intention de trouver une manière de m'organiser pour faire du vélo également ici à Kinshasa. Et bon, je profite aussi de la culture et de la vie congolaise. C'est vrai que quand je parle à des amis en Belgique ou en Europe de ma présence ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on me pose chaque fois la question au niveau de la vie culturelle, au niveau de la musique, parce que s'il y a bien quelque chose pour lequel le Congo est bien connu, c'est sa musique, c'est sa joie de vivre, donc j'essaie d'en profiter un peu. Et puis j'essaie aussi de profiter un peu du pays, parce que le pays est beau, il est beau au niveau de ses paysages, de sa culture, de sa nature, mais également au niveau de ses populations. Donc j'ai eu la chance de me déplacer un peu, pas encore assez, mais me déplacer un peu sur Goma, sur Lubumbashi, et ici sur la province de Kinshasa, et puis au Bas-Congo. Bon, les musts tels que les chutes de Dzongo, par exemple, j'ai été ébloui par voir la beauté de la nature aux chutes de Dzongo. En ce qui concerne l'avenir, je crois que pour moi, il sera difficile un jour de travailler pour une autre organisation, une autre entité que de l'UNICEF. Donc j'ai la vaste intention de continuer mon parcours au sein de l'organisation. Bon, ce sera sans doute pas pour le restant de ma vie en République démocratique du Congo, mais il y a plein d'autres pays à découvrir et plein d'autres pays où du travail est à faire. Donc ça, c'est un projet que je prépare un peu pour les années à venir. Je souhaite dire bonjour à tous les auditeurs, leur souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, être attentif à la cause des enfants autour d'eux, de bien profiter de la vie et de s'assurer que les enfants puissent bien profiter de la vie. J'aurais voulu faire toute l'interview en lingala, mais malheureusement mes capacités restent très très limitées, donc je me limiterai à un mot qui me vient à l'esprit, beauté.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Dans votre agenda de la semaine, n'oubliez pas ces 3 événements dans le calendrier des Nations Unies. Le 25 mai, la journée de l'Afrique. Le 29 mai, la journée des casques bleus, et le 31 mai, dimanche prochain donc, la journée mondiale sans tabac. Honoré Missenga était à la coordination et au reportage. Ben Kabamba à la supervision. C'est bien la fin de cette émission. Thérèse Bassoubi vous l'a présenté avec le concours de Mimi Kindou à la technique. Vous pouvez retrouver ce numéro des magazines des Nations Unies sur radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce magazine consacré aux agences des Nations Unies et à la MONUSCO. Excellente journée dominicale à tous.